Régis.
Oui, bonjour.
Bonjour Régis. On est heureux de vous accueillir par téléphone dans cette émission. Est-ce que vous allez bien?
Très bien, oui, ça va. Merci beaucoup.
Bien, super. Alors, c'est une émission qui, dont le thème, c'est le chocolat et les petits plaisirs gustatifs. Et on a fait une présentation de nos chroniqueurs ici présents. Donc, je vous les présente aussi. Il y a Françoise, Charles et Joris. Charles Lancé, que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être croisé dans les
festivals. On s'est rencontrés dans des salons, oui.
Dans les salons.
Oui, on se connaît, oui, ouais, effectivement.
Voilà. Alors, par rapport à ce thème de la chocolaterie, on a fait un petit test pour savoir quel chocolat vous préférez. Alors, je vous propose un choix, soit une boîte de Ferrero Rocher ou un coffret de chocolat noir de chez Lemoy, rue François de Curel à Metz. Qu'est-ce que vous choisissez?
Je prends le choix numéro 2.
On essaye de faire un peu de pub pour essayer de récupérer des tablettes. Voilà. Donc, on va passer un petit peu dans le vif du sujet en essayant de vous connaître un peu plus. Et on va remonter dans votre biographie de façon chronologique en présentant quelques points de repère et quelques jalons qui nous ont intéressés. Alors, attention, c'est parti. Voilà, un petit retour vers le futur. Alors Régis, dites voir, vous êtes né en 1964 à Metz.
Oui, à Moyeuvre-Grande.
À Moyeuvre-Grande, d'accord, super. 64 ans, ça me fait penser que l'année dernière, c'était un anniversaire, un chiffre rond.
Exactement, ouais, ça y est, les 60 ans.
Alors on s'en remet, il y a des vieillards autour de la table à cette heure-ci, on va bien, je vous assure.
Ouais, mais je commence à sentir la pente maintenant.
Ah, là, c'est la mauvaise pente, c'est ça? C'est celle qui descend. Vous avez fait une grosse fête ou on n'en parle pas trop?
Non, je n'ai même pas fait de fête du tout, je crois.
Du tout? Bon, comme
non,
ça.
Non, je suis resté simple avec mon épouse. Voilà, très discret, ouais.
Et c'est souvent ce qu'il y a de mieux.
Ouais.
Alors, au début de votre carrière, après avoir fait vos études aux Beaux-Arts, vous les avez fait où, vos études?
À Metz.
À Metz. Alors, vous avez été marionnettiste. Alors, juste comme ça, par curiosité, comment on devient marionnettiste?
On était toute une bande, on travaillait tous pour une boîte de formation d'animateurs et de directeurs de centres de vacances. Donc, on s'était un peu spécialisé dans la marionnette au niveau de la fabrication des pièces et puis des personnages. Et puis, on a décidé de monter une petite troupe. On était entre 7 ou 10 marionnettistes. Et puis, on a beaucoup tourné dans les périodes de forcément de Saint-Nicolas de Noël pour les CE et tout ça. Et notre heure de gloire, c'était. D'avoir reçu à l'époque une subvention de l'association du bicentenaire, je crois que c'est ça, de la Révolution, hein, c'est ça. Mm-hmm. Et on avait monté donc un spectacle exprès pour ça, qui malheureusement nous avait été interdit par la MCMT de l'époque, parce qu'il avait changé d'esprit et tout ça en cours de route. Donc ce spectacle-là, on l'a tourné après pour des associations dans des domaines un peu privés. C'était la véritable histoire de la Révolution française, en fait.
Ah, voilà.
Et vous aviez été censuré, parce que
disons qu'on n'était pas trop en odeur de sainteté de la municipalité de l'époque-là. De toute façon, nous, on avait eu l'argent pour faire un spectacle, on a monté le spectacle, hein, puis on a quand même réussi à le tourner un petit peu. Puis voilà, puis on a tourné aussi... puis on a tourné aussi dans les sessions de sport d'hiver. On avait eu un contrat avec un CE d'une marque automobile aux Los Angeles, et puis on avait tourné dans les CE de la station d'hiver en Haute-Savoie, à Châtel, à Chapelle-l'Abondance.
D'accord. Ah, comme quoi la marionnette ouvre des portes. Alors, en 83, vous créez le fanzine Mademoiselle. Je vous laisse dire ce que ça veut dire exactement.
Alors, Mademoiselle, si je me souviens, ça veut dire mouvement artistisme dessinographique mêlant à l'observation subtile et la liberté d'expression.
Voilà.
Si je ne suis pas obligée de répéter, ça va aller.
C'est ça que je vous ai laissé dire. C'est à partir de là que vous est venu le goût de la bande dessinée?
Non, la BD, c'est venu beaucoup plus tôt, hein, je crois. C'est mon frère aîné qui achetait beaucoup d'albums de BD, donc... c'est que les bulles d'eau tournaient, je piquais, et je piquais le nez dedans, et comme j'avais une sensibilité accrue pour le dessin, à force de dessiner des bandes dessinées, on en fait soi-même. Et puis ce même frangin qui est parti un jour faire son service militaire, parce qu'à l'époque, il n'était pas encore... il est encore le service militaire pour lui, et moi, j'y ai échappé. Ah. Et, j'ai vu le mec le plus triste de la planète monter dans le train le jour où je l'ai accompagné pour partir à Trèves. Et je me suis dit, oh là, il faut que je remonte au moral, au frangin, et j'ai commencé à lui faire des petits scripts BD, etc. Et que j'envoyais dans sa chambre. Et il m'a avoué que toute son unité, par quelques-uns quand même, attendait impatiemment son courrier pour lire mes conneries, quoi.
C'est à partir de là que vous avez commencé à faire des petits dessins comme ça, du quotidien ou des choses comme ça, quoi.
Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Bon, c'était très proche de mes lecteurs de l'époque. J'ai appris à dessiner couronné en lisant des boulibis, les tuniques bleues, les trucs comme ça. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu... ça ressemblait pas mal.
Et le fanzine, du coup, il est venu comment?
C'est des collègues à nous. Il y avait une radio sur Thionville, dont je ne connais plus le nom. Qui avait nous aussi une émission de bande dessinée comme vous, et qui avait organisé un concours d'affiches, de dessins pour une expo à Ucange, et j'avais gagné l'affiche, et puis ils sont venus me chercher après en disant on va faire monter un fanzine, on cherche des dessinateurs, est-ce que tu veux en faire partie? Et voilà, ça a duré quelques numéros, pas mal. On a eu un bon soutien, à l'époque on avait toujours des bons soutiens de la presse BD spécialisée, parce qu'il y en avait encore une à l'époque, Plus, Pilote, Charlie, et puis ça tournait tant que ça a duré, et puis à un moment il faut passer à autre chose.
Faut passer à autre chose, Alors c'est vrai que sur votre biographie, là on voit que c'est marqué « Mademoiselle n'est pas mort, rassurez-vous, mais endormie un sommeil qui dure depuis 97, mais c'est-on jamais
». Mademoiselle a revécu un petit peu, parce que c'est Mademoiselle qui a organisé après les rencontres de BD de Marly, puisque Jean Pauline, qui était l'organisateur des rencontres de Marly au sens culturel, est devenu ensuite adjoint, donc il ne pouvait plus mélanger les gens. Donc c'est l'association qui a pris le relais, avec les mêmes paramètres. J'ai pris le relais, puis on a monté ça jusqu'au 30e qui ont eu lieu il y a 2-3 ans ou 2 ans, je ne sais plus. Ouais, voilà. Et puis Mademoiselle, maintenant, est bien endormie. Puis je pense
C'est comme la Belle au Bois Dormant, on n'attend qu'un chevalier ou un prince vienne l'embrasser, la réveiller.
Je ne suis pas sûr que ça marchera. Moi, perso, je pense vraiment avoir tourné la page, puis un peu tout le monde. Parce que Mademoiselle, c'était un fanzine, c'était un mini-éditeur à une époque, on a sorti quand même pas mal d'albums de BD. Après, on était organisateur de salon de BD, donc on a fait le tour.
Après, c'est qu'un avis, mais moi je sais que j'aime pas quand une fois qu'il y a une page de tournée, j'aime bien que la page soit tournée et que ça s'arrête, parce que des fois quand ça redémarre, c'est pas forcément toujours glorieux ou c'est difficile. Et puis la fin, on peut imaginer qu'il serait peut-être passé des autres choses, et puis on reste sur un suspense un peu de manque, mais en même temps, le manque, ça nourrit l'imagination et le plaisir du lecteur aussi. Enfin, que je suis.
Exactement. Hein. Exactement, je suis partisan de ça. Il faut rester sur des choses entières et positives. Après, le remix, des fois, ça.
C'est ça.
Ça marche bien. Regarde ce pauvre monsieur Trump, il a été battu et il revient. Donc,
Charles, c'est pas un personnage de bande dessinée, c'est la vraie vie.
Si, c'est un bon sujet.
Oui, ça doit être un bon sujet d'ailleurs, pour vous.
J'ai fait un dessin dessus. Qui est paru hier sur. Où il est en train de signer avec sa signature un peu de fou comme ça.
Ah oui, la signature, on dirait un électrocardiogramme.
Et j'ai fait cette signature en mèche de bombe comme ça, puis il est en train de l'allumer.
Ah, c'est vous les deux petites mèches oranges au-dessus de la signature? J'ai vu ça ce matin, je ne sais plus où.
Ah, je te remontrerai. Alors, on va continuer la biographie avec un point important. En 99, vous créez les personnages d'Oscar et Morissette. Ça, c'est une série importante pour vous, parce qu'il y a eu à peu près 20 tomes, c'est ça, de réaliser.
Ouais, il y a 7 tomes chez Serpenois, 3 tomes chez OREP, et puis quelques hors-série à droite à gauche. Un peu plus de 20 tomes. Ouais, c'est une belle histoire, c'est une belle aventure. Puis, Patrick Mousquet, je l'ai eu encore en ligne de téléphonie il aimerait tant que ça revive.
Puis, ah oui.
Et puis moi aussi, j'ai décidé que j'ai fait le tour de ces deux gamins. Après, bon, ils ont bien grandi. Puis je crois aussi que, à moins que l'éditeur me dise, Régis, on en fait un, voilà.
Vous seriez partant.
$1 million.
Oui. $1 million.
Exactement. Voilà. Un petit chèque au bout et tout, voilà. On ouais. Part pas une aventure, mais je crois qu'ils ont déjà bien vécu. J'aurais jamais imaginé faire plus d'une vingtaine d'albums avec mes personnages-là quand je les ai fait en 99.
En tout cas, voilà, Oscar et Morissette, c'était ces deux jeunes enquêteurs qui essayent de résoudre des mystères souvent dans la région Lorraine. Hein.
Ouais, ils ont beaucoup été dans la région Lorraine. Ils sont à un moment partis sur Mars, mais ils avaient décollé de la base de Chamblay. Parce que,
ah, la base de Chamblay, oui.
La base de Chamblay, on n'ignore pas qu'en dessous, il y a une base secrète pour envoyer des. Parce qu'on a une force. Je crois qu'il y a un Elon Musk en France qui envoie des choses dans l'espace, c'est ça, en fait.
C'est voilà. Ça. On va continuer avec une petite musique.
Ah ça, j'ai reconnu.
Alors, ça c'est... Bah, tout le monde a reconnu. Joris aussi.
Mais bonne nuit les petits.
Ouais, bonne nuit les petits.
Ah bon, ouais, bonne nuit les petits. Ouais, c'est une belle aventure de deux albums, c'était bien. Ça n'a pas été facile de faire ça en BD, parce que je pense que le public de Bonne nuit les petits... La BD, c'est pas forcément évident, mais on a pu le pari, on l'a fait en deux albums.
Mais comment vous avez réussi à faire ça passer... Vous avez postulé, c'est vous l'idée, on est venu vous chercher, c'est quoi l'origine?
Non, c'est... Ben, encore avec Jean-Pauline de Marly, en plus du salon de BD, on avait aussi un salon de la marionnette, comme par hasard.
Allô?
Et on avait invité la première année les Lignoles à l'info, après on a eu Casimir, et une année, il y a eu la famille des Dupes pour Bonne nuit les petits, avec Tonos, qui sont venus. Et puis on a présenté toutes des pièces inédites, les premiers décors et tout. Et moi j'étais pas là, j'étais absent pour toute raison. Et soit au restaurant, la famille des Dupes, parce que mon Claude des Dupes forcément était décédé, mais son épouse est toujours vivante, heureusement. Puis son fils qui ont toujours les rênes de la société. Au restaurant, ils disent à Jean, nous on adorait avoir Bonne nuit les petits en bande dessinée et tout. Et Jean leur dit, ah ben, j'ai le personnage, j'ai le jeune mec qu'il vous faut. Et ils m'ont appelé, à l'époque, je ne croyais encore, vous n'aurez plus, puis qu'il y a un horaire, c'est un romantier. Ils m'ont appelé et ils m'ont dit, voilà, on va faire le BD avec toi, etc. Et je dis, attendez, avec BD avec moi. Regardez d'abord si... Non, j'aime bien ce que tu fais, tu as regardé, on a été sur ton blog, on a tout vu, c'est vraiment toi qu'on veut, etc. Bon, ok, d'accord. Donc on va faire des essais, j'ai fait des essais, je vais rechercher les personnages, c'était pas trop difficile. Enfin, quoi que c'est pas trop difficile, faire des personnages de BD avec des marionnettes en pâte à papier, c'est pas forcément facile. Je leur ai envoyé des projets, ils m'ont dit oui, c'est exactement ça qu'on veut, on se lance, on y va, puis le lendemain j'avais des histoires dans la boîte aux lettres, et puis il fallait qu'on commence.
Et l'aventure était commencée.
Voilà.
Très bien. Alors, on va continuer, hein, parce qu'il y en aurait tellement de choses à dire. Votre carrière, elle est très, très dense, on va dire.
Et
elle
a fini. J'ai 60 ans,
C'est vrai, mais il y a beaucoup de choses. En 2021, vous collaborez, vous rencontrez Marc-Antoine de Roubaix. Et vous collaborez sur Deux Pitchounes dans l'enfer de Verdun. L'histoire de deux amis de Provence qui se retrouvent mobilisés à Verdun. Et puis, vous, en 2022, toujours avec Marc-Antoine de Roubaix, vous réalisez ensemble L'Exploit, une BD qui raconte l'aventure humaine sportive du FC Metz en 84, quand le club lorrain a éliminé le FC Barcelone.
Exactement.
Un véritable exploit. Comment s'est déroulée cette rencontre avec Marc-Antoine de Roubaix?
Alors, c'est marrant parce que j'étais des médias dans le journal, puis je n'avais pas marre du journal, c'est pas simple. La BD, je tournais en rond avec Oscar Morissette. Je trouvais qu'il fallait toujours se battre pour avoir un projet ou présenter des choses. Mm-hmm. Puis je me suis dit, ouais, c'est bon, j'ai assez fait de trucs. Je pensais vraiment arrêter et me consacrer plus qu'au dessin de presse et arrêter la BD. Et Marc-Antoine, moi je suis allé avec son père, avec François Dombey, qui était journaliste de TF1, et un temps RTL aussi. Et il est venu me voir au journal avec son fils, il me dit, je te présente mon gamin et tout, il veut se connaître, il est cuit, etc. Alors au début je l'ai un peu fui, je Non, j'ai pas le temps. il a été hyper sérieux, incroyable, et il m'a présenté à l'époque un super projet sur la révolution du printemps arabe. Parce que lui, en tant que journaliste, parce qu'il est journaliste maintenant, en tant que journaliste, il l'avait vécu en direct, parce qu'il était au Caire à l'époque où ça a explosé. Et en plus, mettant en vidéo, on a commencé à bosser ensemble, on a failli trouver un éditeur, puis finalement, ça a capoté. Mais il a persévéré, et est arrivé les Pitchous en premier.
Oui. Et puis après, l'exploit.
Et après, l'exploit. Et là, c'était une demande de CNF qui nous ont appelé une fois pour nous demander si on était OK pour dessiner, faire une BD sur une belle aventure de FCMS.
Exactement.
Alors moi, je ne suis pas du tout fouteux. Hein. Marc-Antoine était fou, hein, parce que lui, c'est un vrai fouteux. Il connaît toute l'histoire de FCMS. Moi, le football, ça a arrêté à Michel Platini. Hein,
oui, bon, pour beaucoup, oui.
Voilà, donc, quoi qu'il jouait en 84, hein, donc ça va, mais...
Alors, l'aventure, elle n'est pas finie avec Marc-Antoine, parce que actuellement, vous avez un projet ensemble, c'est ça ?
C'est ça, ouais. Ouais, là, je suis dessus, là, un roman graphique pour les éditions d'Uno.
Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Ouais, c'est. Je pense, oui, je vais.
Rapidement, hein.
Ouais, c'est sur le deuil, en fait. C'est comment aborder le deuil d'une personne qui nous est proche, etc., pour vivre, pour réapprendre à vivre après la disparition d'un être cher, en fait. Bon, ça, c'est la spécificité des éditions d'Uno, hein. C'est toujours des trucs un peu techniques, mais ils ont voulu faire ça en BD parce que bon, ils ont des livrets, ils travaillent avec le Centre Jamais de la fac à Metz, avec le docteur Tarquinho, qui nous aide dans le scénario, hein, qui est pas co-auteur, mais qui nous accompagne dans l'élaboration du scénario au niveau technique. Et puis, toucher un autre public qui a peut-être besoin d'aide et tout à travers la BD, moi je trouve que c'était pas mal. Donc, ça, c'est un petit roman graphique, il faut les faire, les planches quand même. Il y en a 90 de prévu pour l'instant. Voilà.
Moi, je suis épaté par l'éclectisme de votre carrière. Quoi. Quand j'ai découvert, j'ai dit, mais vous avez touché à tout, vous êtes pas, enfin, partout, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est toutes des rencontres apparemment et des moments. C'est impressionnant.
Justement, par rapport à cette carrière, là, on a parlé beaucoup de bande dessinée, mais vous êtes aussi dessinateur de presse.
Ouais. En fait, je crois que avant, en même temps que la BD, c'était aussi la presse, parce que j'ai eu la chance d'avoir un père. La chance ou la malchance, parce que quand on a des gens comme ça dans la famille, c'est un peu compliqué, parce qu'ils ne vivent que pour leur société, qu'il était forcément impliqué syndicalement et politiquement, donc un peu absent dans la famille, mais ça, c'est le choix, quoi. Mais par contre, on était inondés d'informations à la maison, de journaux, etc., et moi, je découvrais les dessins de presse dans ces différents journaux, et puis ça me donnait aussi envie, quoi. Donc j'ai toujours été baigné dans l'actu, donc l'actu m'a toujours intéressé, et l'illustré, c'était encore aussi un rêve. Et quand je suis rentré au journal, en fait, mon secret, c'était en fait d'intégrer la rédaction, mais il y avait déjà une place qui était prise par Bernard Ferreira à l'époque. Donc, je suis rentré au journal par le biais de la publicité. Moi, le principal, c'était de mettre les pieds dans le journal. Puis, une fois que j'y suis, j'y reste dans le sens où je fais le forcing et puis je suis allé voir les gens à la rédaction. Puis,
d'accord.
J'ai commencé un petit peu comme ça. Quoi.
Et alors, l'actualité, en ce moment, elle doit être source de beaucoup de matière pour vous. Alors, je voudrais qu'on parle aussi de votre album « Ma guerre illustrée », parce que depuis 2 ans, vous dessinez... Vous faites des dessins sur ma guerre illustrée d'Ukraine, pardon. Vous faites des dessins sur cette guerre-là. Expliquez-nous d'où vous est venu un petit peu cet engagement par rapport à ce conflit.
C'est par le biais des dessins de presse, parce que je n'avais, et je le dis maintenant à la parfaite, je n'avais aucune attache en Ukraine. Je fais ça dans mon boulot quand les Russes ont envahi
l'Ukraine,
le Donbass, tout ça, je faisais des dessins de presse dessus, et un de mes dessins avait été remarqué par le directeur du Fonds mondial de la paix à Verdun, Philippe Hanche, qui m'a dit, écoute Régis, ton dessin m'intéresse, je voudrais le joindre à une expo que j'ai au centre qui s'appelle le drôle de guerre, le drôle de paix. Ben, je dis oui, ben, je te l'envoie, etc. Et il l'a fait accrocher par une élue ou une fonctionnaire, je ne sais plus, du Parlement européen qui était accroché, etc. J'ai très peu la mémoire des noms, hein, excusez. Et puis voilà, puis je lui dis, écoute, Philippe, moi j'ai plein d'autres dessins sur le conflit, enfin, que j'ai juste, et puis il m'a mis en rapport, il m'a dit, bah, envoie-moi, puis je te mets en rapport avec le musée de l'histoire de la Seconde Guerre de Kiev, parce que lui, il était genre correspondant avec eux, il avait exposé avec une série de photographies des 7 premiers jours de la guerre, fait par une photographe ukrainienne qui était réfugiée en Pologne après. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. De fil en aiguille, je suis devenu ami avec les gens du musée, qui je collabore toujours. Ils m'ont ouvert leur page, leurs réseaux sociaux de mes dessins. Moi, je leur envoyais des dessins pratiquement tous les jours.
Et puis, du coup, ça fait, depuis 2 ans, vous avez dessiné énormément sur cette guerre-là. Et vous avez produit un recueil de 120 pages qui s'appelle « Ma guerre illustrée d'Ukraine ». Ça a été suivi d'une exposition qui est, je crois, partie ou va partir en Ukraine aussi.
Ah ben, il y a eu une exposition à Port-à-Mousson au Musée du Papier. Je crois que le titre du Musée du Papier allait bien. Et puis, en plus, ça peut être chez moi. Et j'avais envie de montrer un peu ces dessins-là avant qu'ils disparaissent, parce qu'effectivement, j'ai donné tous les originaux.
D'accord.
Qui sont dans le bouquin. Je les ai donnés au musée à Kiev. Quelqu'un les a emmenés à ma place. Et puis, il y a une exposition qui aura lieu au musée, qui aurait dû avoir lieu mais en mois d'octobre dernier. Mais avec l'actualité un peu cognante qu'ils ont subi ces derniers temps, parce que la veille de l'hiver, les Russes les massacraient quand même pas mal au niveau énergétique et tout. Donc, tout était un peu chamboulé et l'expo aura lieu normalement en 2025. Je les ai eu en ligne il y a quelques jours. Ça continue. De toute façon, je continue à leur faire des dessins, donc j'en ai tout à leur apporter.
Oui, il y aura un tome 2, non, peut-être ?
Il y a un tome 2 qui est entièrement maquetté. J'attends encore le biais d'une personnalité dont je ne peux pas te donner le nom pour l'instant.
Ah si.
D'accord, très bien.
Non, j'avoue avoir essayé d'avoir un petit mot de Zelensky, mais c'est compliqué. C'est pas qu'il lui ne veut pas, mais c'est compliqué. C'est... Même mon antenne à Kiev, Lubia, qui est journaliste, elle est incroyable, elle bosse comme une folle pour m'aider à monter ce machin-là et tout, mais voilà. Et moi, j'ai hâte d'aller en Ukraine pour cette exposition et puis d'aller les voir.
Très bien. Alors, malheureusement, le temps passe très très vite avec vous, Régis. Donc, vos dessins de presse, on peut les voir sur Opinion Internationale, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui, sur le site d'Opinion Internationale.
Et puis, vous participez aussi à Cartooning for Peace, c'est ça ? C'est une association de...
Oui, c'est une association mondiale de dessinateurs de presse qui a pour but de partager la liberté d'expression, mais aussi de venir en aide aux dessinateurs qui ont quelques soucis dans leur pays, parce que pas mal de dessinateurs, et encore actuellement, sont emprisonnés ou ont des soucis avec leur gouvernement, parce que tout le monde... On l'oublie de le dire, mais en France, on a une chance énorme, c'est quand même la liberté d'expression. Est quand même,
est-ce qu'on peut vous rencontrer physiquement sur un salon dans la région ou pas
Je serai au salon d'histoire à la Malgrange.
Oui, en mois d'avril.
On vous verra là.
Très bien.
Voilà.
Ah ben voilà, on aura comme ça peut-être l'occasion de continuer un peu cet échange. En tout cas, merci beaucoup Régis.
Et puis bravo quand même pour une carrière impressionnante.
C'est vrai, c'est passionnant, votre engagement est remarquable. Et puis ben voilà, donc on mettra les liens sur les réseaux sociaux pour que les auditrices et auditeurs puissent voir votre travail. Merci beaucoup Régis.
Merci beaucoup.
Merci pour votre accueil, merci.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt, avec plaisir. Ouais.
Merci. Alors,